J'aimerais remercier aussi Michel et Christian d'avoir animé cette présidence pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu. Je lisais dans Jacques, et j'aurai l'occasion d'y revenir, Jacques qui disait « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. » J'en parlerai tout à l'heure. Mais pour le moment, je vous invite à lire dans la deuxième lettre de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 11. 2 Pierre 1, 3 à 11. En effet, la puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu agissante. Par elle, les biens au plus haut prix qui nous avaient été promis nous ont été accordés pour que par ceci, vous entriez en communion avec la nature divine, vous étant arrachés à la pourriture que nourrit dans le monde la convoitise. Et pour cette raison même, concentrant tous vos efforts, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la ténacité, à la ténacité la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car ces qualités, si vous les possédez en abondance, ne vous laisse pas inactif ni stérile pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, celui à qui elle manque, c'est un aveugle qui tâtonne. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, redoublez d'efforts pour affermir votre vocation et votre élection. Ce faisant, pas de danger de jamais tomber. C'est ainsi en effet que vous sera généreusement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Voilà une parole qui sonne comme une trompette, qui retentit pour nous annoncer une bonne nouvelle. Elle nous apprend que quelque chose de grandiose est survenu. Dans ce passage, en effet, les affirmations ou recommandations mentionnées se rattachent à un événement incontournable, à savoir, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ s'est fait connaître à nous en manifestant sa puissance divine. Il s'est manifesté en faisant connaître sa puissance divine. Rappelez-vous, frères et sœurs, nous avons eu l'occasion de vous entretenir au sujet de cette manifestation. Nous avions évoqué comment Dieu a déployé en notre faveur l'immense puissance qu'il avait mise en œuvre pour ramener Christ d'entre les morts. C'est ce que nous avions présenté dans les semaines après Pâques. La puissance de résurrection que Dieu met en notre faveur, Et plus récemment, le mois dernier, avec la vision dans Ézéchiel 47, nous avions contemplé l'eau vive qui jaillissait du temple et qui se dirigeait vers des régions arides pour y apporter la vie et la fertilité. Mais Pierre, ce matin, dans sa lettre, parlant de notre relation au Dieu Sauveur Jésus-Christ, proclame que sa puissance divine nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Mesurons la portée de cette intervention et leurs merveilleuses conséquences. Cela signifie que désormais, cette force agissante nous habite. Elle est devenue une réalité intérieure. Il ne s'agit plus de contempler l'eau qui sort du temple, d'imaginer cette puissance de résurrection qui a relevé Christ. Il faut savoir maintenant, c'est une réalité intérieure. Maintenant, la source est en nous. Elle établit sa demeure chez nous. En disant cela, j'ose établir une comparaison avec une expérience vécue par Zachée. Vous connaissez bien cette histoire. Zachée le publicain. Ce collecteur d'impôts, riche, mais insatisfait de sa vie qui était bien terne, cherchait à voir Jésus qui allait passer. Or, Jésus arriva au niveau de l'arbre sur lequel se trouvait perché Zachée, et Jésus lui adresse une parole inattendue. « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. » Le Seigneur, le Saint de Dieu, pénètre chez un grand pécheur. Celui-ci n'est plus un spectateur admirant de loin Jésus. L'envoyé de Dieu est venu loger chez lui, établissant un contact intime avec lui. C'est le Messie en personne qui l'accueille chez lui, avec une joie débordante. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Sa vie vient de basculer, le salut est entré dans sa maison. Ce que je veux souligner, vous l'avez compris, Zachée était un spectateur. Il enviait cet homme juste et pur, alors que lui, il avait les mains plus ou moins sales, comme on dit. Et il a reçu quelque chose d'inattendu. Ce qui est éloigné de lui, dont la distance était infinie, quelle comparaison établir entre un pécheur et le Saint de Dieu. Une parole inattendue qui lui dit, « Il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. » Donc, il passe du spectateur à l'ami intime. Et Jésus est devenu une réalité intérieure dans sa maison avec toute sa famille. Revenons donc aux affirmations de Pierre. Et j'aurai l'occasion d'établir aussi une comparaison entre les déclarations de Pierre et certaines déclarations de l'apôtre Paul. Nous avons retenu trois éléments dans les affirmations que Pierre a faites. J'ai retenu que cette réalité intérieure est fondée sur le don accordé par Dieu. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Le deuxième élément de cette réalité intérieure, c'est que Dieu nous a adressé un appel, comme il s'est adressé à Zachée. Et puis, en troisième élément, c'est la confirmation de notre vocation. Jésus a appelé Zachée. Zachée a confirmé, a répondu à cet appel, il l'a accueilli. Eh bien, ainsi en est-il pour nous, face au don qui nous a été fait, face à l'appel qui nous est adressé, il y a une confirmation que nous avons à faire concernant tout cela. Donc, premièrement, sa puissance divine nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Une telle parole, frères et sœurs, ne mérite-t-elle pas d'être accueillie avec action de grâce? Elle témoigne que la force agissante de Dieu nous communique toute ressource suffisante. Ce n'est pas une fable. Elle révèle que les biens du plus haut prix qui nous avaient été promis sont maintenant accordés. C'est une réalité bien présente, une réalité qui nous ramène à l'expérience de Zachée. une expérience scellée par le mot « aujourd'hui ». En effet, dans l'expérience de Zachée, ce mot « aujourd'hui » est prononcé par Jésus deux fois. Il dit à Zachée, « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et puis à la fin, il dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Donc c'est là notre première attitude et réaction vis-à-vis de cette parole, que sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est une vérité qui est digne d'être accueillie avec action de grâce. Par conséquent, la question de l'accueil de la parole du Seigneur se pose toujours à tous ceux qui l'entendent. Comment accueillons-nous ce matin cette parole de Pierre ? Aujourd'hui, dans la lettre de Jacques, nous apprenons que l'heureuse nouvelle de la parole qui sauve a été plantée en nous. Cela veut dire que, parvenue à nos oreilles, cette parole nous atteint intérieurement. Une fois, Jésus était dans une synagogue et il a parlé sur un passage du prophète Ésaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Et Jésus termine sa lecture, tout le monde était étonné de la façon dont la lecture a été faite, et il leur dit « Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie au moment même où vous l'avez entendue. » Et le texte dit « Au moment même où elle a retenti à vos oreilles, c'est accompli. » Alors Jacques nous dit, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Cette parole que vous venez d'entendre, à savoir la puissance divine de Dieu, nous a accordé tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est la vérité même. Accueillir avec douceur la parole. Que signifie ce doux accueil de la parole? Cela signifie qu'il n'y a pas de violence à exercer de notre part pour accueillir cette parole. Nous ne l'arrachons pas à Dieu. C'est lui-même qui l'a dit, qui la prononce. Il nous précède dans nos besoins. Il sait que nous en avons besoin et il a proclamé cette parole. Par conséquent, nous devons aménager toute la place qu'il faut. Nous devons prêter toute l'attention que la présence de cette parole réclame. Nous devons accorder du temps nécessaire à son épanouissement. C'est cela, accueillir la parole avec douceur. Elle est là, en nous. Un autre exemple, dans Jean 15, Jésus, en parlant de la vigne, qu'il est la vraie vigne et le père le vigneron. Et le vigneron émonde sa vigne. Et Jésus dit à ses disciples, « Déjà, vous êtes purs, déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu ne reste pas sans effet lorsqu'elle est prononcée. Même si nous ne ressentons rien, elle agit en nous. Déjà, vous êtes purs, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, selon Pierre, cette puissance nous procure un équipement qui nous permet d'opérer efficacement dans tous les domaines de notre existence. C'est-à-dire notre rapport avec le monde extérieur, et notre rapport avec Dieu dans son service, notre piété. À l'arrière-plan de cette affirmation de Pierre, ce don qui nous donne toutes les ressources nécessaires, à l'arrière-plan, Pierre fait allusion à la situation difficile des chrétiens dans le monde. Dans sa première lettre, Pierre évoquait les conditions de vie hostiles aux chrétiens dans l'Empire romain. Mais dans cette deuxième lettre, il mentionne plutôt l'adversité générée par diverses hérésies. Les chrétiens étaient troublés par de faux prophètes. Et la puissance divine était donc une source de consolation, d'espérance, de lumière. Cette puissance divine, supérieure à toute autre puissance, qui cherche à détruire ou à assujettir. La providence divine pourvoit et prévoit et nous assiste. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais une chose peut paraître étonnante dans la déclaration de Pierre. C'est que Pierre, parlant de l'action généreuse et anticipatrice de Dieu, n'attribue pas tout cela à la bonté de Dieu. Il ne parle pas de la bonté divine. On pourrait s'y attendre, si Dieu s'intéresse à nous à ce point de nous accorder ce qui est le meilleur, pour nous préparer à tout. Pierre dit plutôt que cette générosité et cette parole anticipatrice à nos besoins découlent de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que l'accent est mis sur le fait que Dieu est capable, en parlant de sa puissance, Dieu est capable, par son seul pouvoir, de mener à bien tout ce qu'il promet, tout ce qu'il décide, tout ce qu'il entreprend. En quelque sorte, la puissance de Dieu est au service de sa volonté. Ce qu'il veut, il le fait. Il y a deux psaumes qui disent cela, les psaumes 115 et 135, qui nous disent « Tout ce que Dieu veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre. » Sa puissance est au service de sa volonté. Et même dans l'Apocalypse, les 24 anciens, les vieillards, adorent le Seigneur en proclamant ceci « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as tout créé. C'est par ta volonté que tout était et que tout a été créé. » Par ta volonté, par ton pouvoir. Enfin, toujours dans cette déclaration de Pierre, nous avons vu donc le don, la puissance. Affirmer que le Seigneur a donné, c'est reconnaître en même temps qu'il s'agit d'une grâce. Le don de Dieu n'est pas un dû. Il ne dépend pas de nos mérites. Nul ne saurait, par la force ou la séduction, contraindre Dieu à attribuer ses bienfaits. Les faveurs de Dieu ne sont pas négociables, mais tout dépend de son bon vouloir. C'est Jacques aussi qui nous dit dans sa lettre, « De sa propre volonté, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons, pour ainsi dire, les prémices de ses créatures. » Dieu, de par sa volonté, il a demandé conseil à personne, il nous a engendrés. C'est sa volonté. Et il nous a bien engendrés, pas à moitié, pour que nous soyons les prémices de ses créatures. Dieu a donné. Nous ne l'avons pas forcé, nous ne pouvons pas le forcer. C'est lui qui agit. Donc cette réalité intérieure, basée sur la puissance de Dieu, comporte comme premier élément le don que Dieu fait. Et comme deuxième élément, c'est l'appel qui nous est adressé. Pierre nous fait remarquer que la relation du Seigneur avec les humains ne se limite pas aux dons, même précieux. Il est également fait mention de notre vocation. Alors j'aimerais insister quelque peu sur le côté extraordinaire et mystérieux de l'appel de Dieu. Généralement, Quand nous, humains, quand nous appelons quelqu'un, nous interpellons ce qui existe déjà. Si j'appelle Lily ou si j'appelle André ou Bernard, ils existent déjà et ils ont un nom déjà. Et en les appelant par leur prénom, ils savent que je m'adresse à eux. Dieu aussi appelle les êtres humains par leur nom. Mais la Bible nous apprend que l'appel de Dieu va plus loin. Car Dieu peut appeler également ceux qui n'existent pas. Nous nous appelons ceux qui existent et ceux qui portent déjà un nom. Mais Dieu appelle même ceux qui n'existent pas. C'est Romains 4, verset 7 qui le dit. Il peut prononcer notre nom avant même notre naissance, lorsque nous sommes encore dans le sein de notre mère. C'est Ésaïe 49 qui dit cela au sujet du Messie, du serviteur de Dieu. L'Éternel a prononcé mon nom alors que j'étais encore dans le sein de ma mère. Donc, l'appel de Dieu qui nomme quelqu'un, le fait de nommer quelqu'un, Dieu le fait exister. Il n'attend pas que nous soyons là pour nous appeler. Il nous fait exister par l'appel. Sa puissance nous fait surgir du néant. Il nous rend présents devant lui. Il nous assigne même une fonction avant notre naissance. Et c'est là le sens plein du mot vocation. Un appel fondé sur la connaissance que Dieu a de nous en vue de travailler avec lui. C'est cela, la vocation. Donc Pierre nous dit, non seulement Dieu nous a précédés dans nos besoins en nous accordant un don précieux, mais nous a précédés en nous appelant. Il nous appelle par sa gloire et par sa force agissante. C'est là ce qui accompagne notre vocation et qui ne fait pas échouer notre vocation, c'est que Dieu est à l'origine de notre vocation par sa force puissante. Il engage sa personne, son honneur, et manifeste sa vertu. Dans le même temps, Pierre, qui souligne l'origine de la vocation, Pierre souligne aussi l'intention et la volonté de Dieu en nous adressant son appel. Dans ce passage, il nous dit, Dieu veut nous arracher à un monde en décomposition et nous faire entrer en communion avec sa nature divine. Par conséquent, nous voyons dans cette parole l'efficacité de la puissance agissant dans une double intervention. Il y a en quelque sorte un transfert. Il nous arrache d'un monde pourri à un monde meilleur. Il y a aussi une transformation. Il change notre nature. C'est tout cela qui constitue notre réalité, cette réalité intérieure. Ce n'est plus quelque chose que nous contemplons à distance, mais Dieu est venu agir en donnant, en appelant, avec force. Et Paul aussi, à sa manière, l'apôtre Paul, nous parle de cette réalité intérieure, une réalité introduite par un nouveau régime. Dans la lettre aux Romains, Paul déclare que désormais, tous ceux qui sont liés à Jésus-Christ par la foi échappent à toute condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, nous a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, Paul aussi nous parle d'un transfert et aussi d'un changement de condition, un changement de nature. Après ces deux éléments, le don et l'appel, nous arrivons maintenant à la confirmation de notre vocation. Le chrétien qui qui bénéficient de ce dynamisme extraordinaire de Dieu, un dynamisme qui fait tout, qui donne et qui appelle, ce chrétien n'est pas pourtant inactif. Il est appelé à faire preuve de détermination. Il est appelé à confirmer l'appel qu'il a entendu. Pierre nous dit clairement, pour cette raison même, à cause de tout ce que Dieu a fait par sa parole, par sa puissance, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, la vertu. À la force morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Ainsi, le fait que le Seigneur pourvoie avec abondance et agit avec puissance a pour conséquence de nous rendre actifs et ingénieux. Comme on dit, ça donne des idées et ça donne de la force. Et cet enseignement que Pierre donne à ceux qui entendent cette parole, l'apôtre Paul aussi, à sa manière, fait de même. Paul encourageait Timothée, dans 1 Timothée 3, à l'exercice de la piété. Dans la pensée de Paul, ce que nous possédons demande à être développé. C'est Paul qui va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Donc Paul aussi parle de la réalité intérieure. Ne néglige pas le don qui est en toi. Tout à l'heure, on avait vu la parole qui est plantée en nous. Mais là, et Paul dit à Timothée, tu as un don en toi. Certaines traductions disent, ne laisse pas en défriche ce don qui t'a été accordé. Réalité intérieure. Mais Paul insiste encore dans la deuxième lettre, cette fois-ci, à Timothée. Il fait, à l'exemple de Paul, il attache une importance à la foi à partir de laquelle tout se développe. Et puisque nous venons de lire, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, etc. Eh bien, Paul dit de même à Timothée, je suis persuadé que la foi qui était dans ta mère, chez ta mère, existe aussi en toi. J'en suis persuadé. Cette foi existe. Et il continue de Timothée 1:5. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu. La foi qui est en nous. Je n'ai pas lu tous les débuts de la deuxième lettre, les versets 1 et 2, où Pierre dit à tous ceux qui ont reçu en partage la même foi que nous. Donc Timothée a reçu en partage aussi la même foi que son aïeul et sa mère. Et c'est pourquoi Paul l'exhorte à ranimer le don qu'il a reçu. La foi reçue, mais aussi le charisme reçu. Frères et sœurs, nous qui entendons cette parole, je pense que cela ne nous laisse pas indifférents. Qu'ai-je fait du don reçu, de la grâce reçue? Ou bien je l'ai oublié, ou bien je n'y ai pas cru. Est-il bien vrai que j'ai ce don. Quand j'étais jeune, ah ben oui, je faisais ci, je faisais cela. Mais maintenant, hop, tout ça, c'est parce que j'étais jeune. Mais non, c'était le don, la force agissante de Dieu qui était là. Eh bien, ranimons ce don. Il est encore là. Dieu ne se repent pas de ses appels et de ses dons. Et les deux, appels et dons. Il s'adresse à nous encore ce matin pour nous parler de cette réalité intérieure qui est là. Pour conclure, je dirais que la pensée de Paul n'est donc pas profondément différente de celle de Pierre au sujet de cette réalité intérieure. Les efforts qui nous sont demandés par Pierre ou l'exercice de la piété conseillé par Paul, nous devons le savoir, tout cela s'effectue sous la conduite de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un fait de l'exercice, souvent, ou du moins c'est souhaitable, il y a un coach, quelqu'un qui l'oriente. Eh bien, dans la lettre de Paul à Tite, Tite qui est aussi un autre compagnon d'œuvre de Paul, comme Timothée, dans la lettre à Tite, Paul écrit « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde pour que nous vivions dans le temps présent avec sagesse, justice et piété. » La grâce de Dieu qui a été manifestée nous enseigne, nous éduque. Nous avons quelqu'un qui nous entraîne dans nos séances. Oui, la progression dans la foi, la progression de notre nature, la croissance de notre nature nouvelle, tout cela s'accomplit dans l'apprentissage et dans l'éducation. Permettez-moi à ce sujet de vous rappeler un exemple tout à fait banal. J'observe souvent les enfants et petits-enfants. Je prends plaisir à les voir évoluer. Et un jour, je me suis dit, tiens, voyant un bébé qui apprend à marcher, j'ai dit, tiens, un bébé humain, au départ, se déplace à quatre pattes, comme un bébé singe. Mais petit à petit, le bébé humain, à la différence du bébé singe, le bébé humain commence à se redresser. Il prend appui sur ses jambes. Certes, il tombe, et même souvent. Il pleure, car il est surpris de sa chute. Dans sa tête, il se disait, je pensais que ça allait marcher. Il pleure. Mais quelque chose au fond de lui-même, confusément sans doute, le persuade qu'il est un bipède, qu'il est fait pour se tenir debout verticalement. Alors ce bébé repart, il poursuit ses efforts jusqu'à pouvoir rester debout et marcher correctement. Ça, c'est le bébé humain. Pendant ce temps-là, le bébé singe aura aussi progressé quelque peu. Et il lui arrivera de se tenir debout quelquefois. Mais parce qu'il est un bébé singe, il trouvera plus commode, plus convenable de marcher à quatre pattes. C'est un bébé singe. Frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Et nous marchons sous la conduite de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ qui nous précède, qui nous assiste. Et nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et un enfant de Dieu connaîtra des épreuves et des échecs parfois marquants. Mais s'il tombe, s'il se fait mal, s'il pleure, il ne manque jamais de crier « Abba, Père !» Il est enfant de Dieu. Il n'est pas un singe. Précisément, le livre des Proverbes, qui est bien avant le Nouveau Testament, parlait au sujet de ceux qui sont justes. Proverbe 24, 16 dit « Même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, tandis que le méchant perd pied dans le malheur. » Il y a une différence. Et un psaume affirme « Le juste a beaucoup de malheur, mais chaque fois, le Seigneur le délivre. » Donc, risquons-nous, risquons l'aventure de marcher avec le Seigneur. N'ayons pas peur des chutes, des glissades, des échecs. Puisque notre vie vient de l'Esprit, dit Paul aux Galates, marchons aussi par l'Esprit. L'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, eh bien marchons par l'Esprit. Même si la chair résiste à l'Esprit, mais continuons d'aller de l'avant. Oui, dans le cadre d'un monde où le croyant est souvent soumis à l'épreuve, où le croyant est pris en tenaille entre séduction et persécution, Paul fait parfois mention de combat. Il dit, nous combattons et nous luttons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous et principalement des croyants. Donc, nous combattons et nous luttons avec espérance. Aussi, nous terminons en rappelant une pensée de Paul qui aime évoquer des modèles d'engagement spirituel. Il y a 3 modèles qu'il nous donne, Paul. Celui du soldat, prêt à tout endurer pour plaire à celui qui l'a enrôlé. Le modèle de l'athlète qui s'applique à lutter selon les règles afin de gagner la couronne. Et puis le modèle du cultivateur qui se donne de la peine pour produire et obtenir sa part de fruits. Allons de l'avant. La grâce de Dieu a pourvu à tout. Même si nous trébuchons, il nous relève. Que le Seigneur nous accompagne. Amen.